Mesdames et messieurs, méfiez-vous de Gendoïf. Il a l'air doux, souriant, timide un peu, pacifique, un peu lunaire et absent, mais quand vous lisez ses textes, vous rencontrez un écrivain aux yeux grands ouverts sur le monde, aussi bien le monde social que le monde intérieur, le monde de l'âme, un écrivain ironique, bordeaux, satirique, très joueur et à rien provocateur. Alors qu'est-ce à dire? Y aurait-il deux Eugène Durif? Je crois qu'on a plutôt affaire à un cas d'école classique, c'est que la production d'un écrivain n'est pas forcément le décalque de sa personnalité apparente. Là, l'écrivain a écrit souvent, vous savez, contre l'autre, ou bien en relais de l'autre. Alors que faire d'Eugène Durif ici présent? Eh bien, le demander de continuer à se dédoubler, ce qu'il va faire volontiers, puisque il va participer aux lectures de ses propres textes avec Patrick. Alors ceci dit, présenter Eugène Durif de façon classique et tranquille, c'est possible, mais ça ne correspond guère au personnage. On pourrait cependant dire que c'est un écrivain extrêmement prolifique. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur une bibliographie exhaustive du monsieur. Je pense qu'il a dû écrire quelques 40 textes en 25 ans. J'en serais même à me demander si pendant 10 ans ou 15 ans, il n'a pas entassé des œuvres qu'il a publiées coup sur coup à un rythme effréné à partir de certaines époques. Enfin, ça, justement, ce sont des questions qu'on pourrait lui poser. Donc, un écrivain extrêmement fécond qui a de multiples cordes à son arc. Il a traversé, si on parle classique, un certain nombre de genres. Il est passé par le théâtre de chambre, théâtre-récit, souvent à une seule voix. Il est passé par le théâtre d'intervention, inscrit dans la réalité sociale et politique. Il est passé par la comédie aussi bien de mœurs que burlesque. Et il a poussé cette comédie jusqu'à la comédie musicale, jusqu'à l'opérette, ces temps derniers. Mais je crois que plutôt de recourir à cette classification qui a le mérite évidemment de montrer la diversité de son œuvre, il serait préférable de choisir un mot qui, à mon avis, le définit mieux et qui, en même temps étant extrêmement ouvert, permet d'envisager multiples facettes de gêne. Je dirais que c'est un poète. C'est un poète d'abord parce qu'il a le goût du langage. Il a un goût du langage et des mots qu'il manie avec le talent d'un jongleur et d'un inventeur. Et il le fait sur des modes extrêmement variés. Il le fait sur le mode médiéval de la fatrasie. Fatrasie, vous savez, l'entassement de cocasserie, de langagière, incohérente apparemment, dont les gens du Moyen-Âge ont été assez amateurs. Et il le fait dans un texte qu'on a du mal à trouver, parce que justement, dans la bibliographie d'Eugène, il y a énormément de textes inédits. Je ne sais pas, j'ai pu en déchiffrer, en repérer à peu près 25, sur un total de 40. En fait, tout ça, évidemment, c'est un travail universitaire à faire plus tard, savoir exactement comment se profile l'œuvre complète, se profilera l'œuvre complète, déjà complète, d'Eugène. Donc c'est dans un texte qui s'appelle « De nuit alors, il n'y en aura plus ». Donc ça, c'est le travail du langage qui pousse jusqu'à un mode délirant et, je dirais, calembourdesque. À la suite de Jean-Pierre Brisset, dans une œuvre qui a été montée très récemment, qui est jouée encore, non? Non, c'est fini. Oui, que tu as joué hier, avant-hier, à Tunis. Voilà. Et les Tunisiens, apparemment, apprécient. Donc, c'est ce texte qui s'appelle « Quel est ce sexe pour les anges ?» Alors, ça va jusqu'à un autre mode, jusqu'à la fabrication de mots valises. De mots valises dans un texte qui est publié, celui-ci, qui s'appelle « Tête farcie ». Ça va aussi jusqu'au mode clownesque, dans un texte qui s'appelle « Les irruptés du réel ». Et aussi sur un mode un peu particulier que, je pense, les linguistes apprécieraient particulièrement, c'est sur le travail de la langue incoative, de la langue en train de se faire, de la langue qui n'arrive pas à aboutir jusqu'à la phrase et qui est, si vous voulez, une sorte de langue à vivre, beaucoup plus qu'une langue à dire ou à lire surtout, et qui a un caractère donc de fermentation permanente. Et ça, c'est un type, je crois, tout à fait original de son écriture. Donc il est poète par cet aspect-là, et il y en a quelques autres. Il est poète aussi, me semble-t-il, parce qu'il n'enferme ni ses personnages, ni ses fables dans un sens facile à baliser, dans la prison étroite d'une signification qui s'imposerait à nous. Il travaille, comme beaucoup d'écrivains aujourd'hui, sur ce qu'on appelle des structures ouvertes, c'est-à-dire des choses qui laissent une grande initiative d'interprétation au lecteur et au spectateur. Donc chez lui, très souvent, et peut-être plus que chez d'autres, le sens est tremblé, le sens est fluide, le sens traverse les mots. Et en théâtre, c'est évidemment parfois un peu troublant que de ne pas pouvoir s'accrocher à des repères extrêmement solides. Dans le théâtre, on peut dire que ça signifie que très souvent l'identité des personnages, l'identité de l'huile dont on parle, ou l'identité du jeu qui parle, est indistincte et insaisissable. Alors ça ne veut pas dire du tout que Eugène Durif n'est pas un homme de théâtre, mais on dira plutôt qu'il est l'homme d'un théâtre autre, d'un théâtre, je dirais même, de l'autre. C'est-à-dire quelque chose qui constitue une sorte de noyau autour duquel on tourne, mais qui reste insaisissable. Je dirais qu'il est encore poète par sa relation particulière d'intimité qu'il nourrit à l'égard des forces de la nature. C'est pour moi un des rares écrivains qui est en osmose avec la terre. Il est global, notre gène. Il a quelque chose. Et si, non mais c'est pas du tout un excès de langage, mais ça se sent, on sent la pâte, l'humus, à travers en particulier les premiers textes, plutôt en travers les premiers textes. Et ça, c'est intéressant parce que ça lui permet d'établir une sorte de continuité entre ce qu'on peut dire, qu'on pourrait appeler la poussée terrienne, et également les états de conscience indistincts de certains de ces personnages qui sont proches justement de cet accord forcément un peu animal, un peu bestial même, avec la nature, dans des textes comme Le Petit Bois ou L'Arbre de Jeunesse. Et je veux dire que j'apprécie particulièrement ces textes comme étant d'une facture tout à fait durifiée. Je dirais encore qu'il est poète parce qu'il a un œil tourné vers le dedans, et pas seulement vers le dedans des états de conscience, mais vers le dedans du passé et de l'enfance. Et il en a un sentiment douloureux de la perte de cette enfance, qu'il essaye de, pas seulement de ressusciter, comme le font les historiens, mais de recréer presque dans le moment même de sa production, disons en effaçant le passé. Et il y a un petit texte qui va vous être lu, dont je ne veux pas évidemment déflorer la lecture, mais je vous en lis simplement quelques lignes, c'est dans Maison du Peuple, c'est ceci. « Peut-être finirons-nous par retrouver ce dont on finit par douter. » Que cela ait un jour réellement existé. Assignons-nous en cercle, en rond, soufflons sur nos doigts et sifflons pour nous donner du courage. Et faisons naître et non pas revenir des souvenirs, ce qui eut lieu un jour, si infime, si peu spectaculaire. Donc en fait pour lui, et il y a d'autres cas bien sûr d'écrivains de ce genre, pour lui le passé c'est une partie du rêve. Le passé, c'est par le réel qu'il y va. C'est-à-dire qu'il est constamment à la quête du réel, mais un réel qui est beaucoup plus multiforme, qui n'est pas simplement le réel de constat immédiat. Et il le dit très clairement aussi dans Maison du Peuple, qui était, à mon avis, un texte tout à fait intéressant. Il dit ceci, « Je voudrais dire le réel, tout, rien que le réel. On s'épuiserait bien avant lui. » Des entreaperçus, seulement des figures qui défilent, et on voudrait retenir des personnages et des vrais paysages. Donc, à partir du moment où ce réel englobe, on pourrait dire, l'existence dans toutes ses dimensions, depuis l'animal jusqu'au paysage, en passant par, on pourrait dire, la folie et par, disons, la réalité la plus sociale, on va avoir évidemment un kaléidoscope de réel. Alors, aussi bien dans le domaine social-politique, avec Tonkin Alger, que dans un réel méconnu, celui qui apparaît dans BMC, d'un réel enfoui et perdu, celui des Petites Heures, ou bien même un réel névrotique dans Via Negativa. Enfin, ce réel est toujours chargé d'inquiétude. Il n'est pas évidemment un donné, il est un construit. Et il va, surtout dans les dernières œuvres, exposer dans une grande violence, qui va jusqu'à un certain, j'appellerais un prophétisme incantatoire de sa part. Et ça, je l'ai repéré dans un texte qui s'appelle Commun, qui parle tout seul, et dans les irruptés du rêve. Et ça donne ceci, je ne sais pas si je peux lire tout ça, c'est un petit peu long, c'est comme une litanie, pronostication pour le millénaire à venir. Tout ce qui luit ne sera pas or, ce qui brille trésor, la lune rousse sur la semence aura grande influence. Le soleil d'hiver tard sera levé, tôt ira se coucher. Les aveugles voiront, les sourds ouïront, les ânes auront du son, l'âme sera donnée aux cochons, les poissons mordront à l'hameçon, les serviettes seront confondues avec les torchons, les fleurs avec les charbons, les bons avec les mauvais larrons, les choux avec les lardons, les limaçons avec les oisons. Les pluies du matin n'arrêteront pas de sitôt le pèlerin. Les poulets de grain éclos en morte lune mourront de chagrin. Les hirondelles voleront à terre et feront fuir la poussière à tire d'aile. Ceux qui dorment tête bêche sommeilleront tête à queue, etc., etc. Et vous voyez que même dans ces litanies à un ton quelque peu imprécatoire, on n'est jamais très loin du sarcasme et de la verve langagière qui, manifestement, est une du climat, des espèces de tissus amniotiques dans lesquels baigne l'ensemble de l'œuvre de Jeanne Durif, plutôt dans les périodes récentes. Donc, tout ça se mêle au clownesque et au pathétique, et ça donne ce que vous pouvez vérifier dans ces pages du texte que je viens de vous lire. Alors, je vous ai lu un petit morceau, mais on pourrait continuer, et vous voyez que toute cette pièce, qui s'appelle « Commun qui parle tout seul », elle est à la fois extrêmement, on pourrait dire, attentive au malheur de l'homme, et en même temps, toujours en distance à l'égard de ce qu'on pourrait appeler l'esprit de sérieux. Donc, en somme, pour ne pas tout éplucher, je dirais que Eugène, c'est l'homme de l'alliance des contraires. Et que cette alliance des contraires, il faut la prendre au pied de la lettre. Ce qu'il a voulu faire dans un texte inédit, qui porte un sous-titre tout à fait mystérieux, pas un sous-titre, mais enfin, un titre en parenthèse mystérieux, et qui se nomme « Il faut que l'une ait raison pour que l'autre ait tort », avec comme caractérisation de genre ce mot que vous ne connaissez peut-être pas, qui n'est pas dans le dictionnaire, qui s'appelle « gélodacrie ». Et savez-vous ce que c'est que la gélodacrie ? C'est proprement « faire rire aux larmes ». Des deux mots grecs, larmes et rire. Faire rire aux larmes. Alors je crois qu'on va avoir une illustration de ce double talent d'Eugène avec des textes lus par Patrick Pinault, et on commence par un texte de conversation sur la montagne. Et à la suite de ce texte lu, il enchaînera avec un petit texte du Petit Bois.
Voilà.